Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why
I'm hot. Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, vous l'avez compris, on parle de la mode française, du soft power de la mode à l'occasion de la Fashion Week, la Paris Fashion Week, qui se tient en ce moment dans la capitale et jusqu'à demain. L'influence de la France demeure forte en matière de haute couture et de prêt-à-porter. En même temps, cette influence est en mutation, confrontée d'une part à une mondialisation de la mode au numérique. On parlera notamment du rôle de la blockchain, de l'intelligence artificielle, des imprimantes 3D, et puis aussi mutation du fait d'une domination de la mode commerciale de masse par des grandes chaînes américaines ou espagnoles où les Français sont pour le coup un peu plus loin derrière. La Paris Fashion Week est l'occasion de prendre les mesures, si on peut dire, de notre influence dans la mode, et nous le ferons ce soir avec trois invités. Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, qui organise la Fashion Week. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Bienvenue dans Soft Power. Vous avez fait un rapport d'ailleurs qui s'appelle le Soft Power de la mode.
Oui, c'est effectivement un rapport qui a été publié récemment et que j'ai coordonné dans le cadre de l'Académie des technologies dont je suis membre.
On vous empruntera quelques-unes de vos recommandations et aussi de certains de vos constats.
Avec
Jean-Pierre
plaisir.
Blanc est également notre invité ce soir, fondateur du festival de Hier, consacré à la mode, à la photo de mode et aux accessoires. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes venu en tenue...
Je ne suis pas venu nu, vous voulez dire, mais c'est tout à fait vrai. Je suis donc habillé.
Qui est votre couturier?
Pour les hommes, les couturiers n'existent pas.
Ah bon?
Ou quasiment
ils font pas.
Non. Donc,
casquette blanche,
habillé,
cravate,
par
foulard.
Un créateur important français qui s'appelle Ami, Alexandre Mathiusi. Je porte un jean des puces et un polo Hermès et un foulard Hermès autour du cou, une casquette des puces. Voilà.
Bien. Nous serons également avec Vanessa Friedman, la célèbre critique mode du New York Times que j'ai rencontrée il y a quelques jours pour préparer pour l'interview et pour cette émission. Et à 20h, Zoé Sfez, votre invitée mode nous parle du nouveau rôle d'Internet justement dans la mode.
Mais oui, c'est Valérie Jeanne Perry qui est chercheuse qui est au CELSA et qui a publié Internet a aussi changé la mode, qui va évidemment essayer de parler avec nous comment, de la manière dont on est passé peut-être à un système médiatique de la mode, à des systèmes médiatiques de la mode avec cette date fatidique pour elle de 2013 avec l'arrivée d'Instagram et de Vine et de Periscope dans ce qui était autrefois les coulisses de la mode et qui sont aujourd'hui peut-être même le cœur de ce dont on parle. Évidemment, on parlera de tout ça avec elle.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis à 20h10, notre nouveau rendez-vous, le Club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Et nous serons pour en débattre avec Elisa Brown, journaliste au Figaro, et Gilles Fontaine, journaliste à Challenge. Voilà pour le sommaire de cette émission Soft Power ce soir. Émission réalisée par Lise Combe, avec un régie Pierrick Monsigny. Émission préparée par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot, car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter, mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, comme les gens de la mode, Spotify, Facebook, LinkedIn en podcast, et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. La tragédie Nissen. Je commence cette émission en évoquant ce portrait attachant et sévère de la ministre de la Culture signé par Anna Cabana dans le journal du dimanche aujourd'hui. Terrible portrait au demeurant et pourtant émouvant, déconcertant et touchant d'une ministre qui est en train de s'asphyxier dans ses fonctions. Anna Cabana décrit, la ministre évoque le suicide du fils de Françoise Nyssen, dont les journalistes en principe parlent guère, et les obsessions de la ministre. Elle le fait avec talent et doigté, et on sent bien que tout ça est fort compliqué. Le portrait qu'elle dresse est hallucinant et désespérant. « Le président me soutient, dit la ministre. Je me sens soutenue par lui. Il me le dit, je le sens. » Le Premier ministre, lui, Édouard Philippe, a voulu la démissionner, mais elle a survécu au remaniement. Emmanuel Macron l'a sauvée, même s'il aurait dit, désarmé lui aussi, « À chaque fois que je m'apprête à lui faire une remarque, aurait dit Emmanuel Macron, elle me dit que je lui rappelle son fils. » Les personnes interviewées sont elles aussi déconcertées et touchées. Une femme tellement adorable et émouvante, mais qui ne maîtrise pas ses dossiers, qui ne prend rien bras le corps et qui ne porte rien, dit un écrivain. Il est évident qu'elle n'est pas à sa place comme ministre, dit un autre. Quand Nyssen parle, c'est sujet, verbe, et il n'y a pas de complément. En norvégien, Nyssen signifie « fils de la lune ». Elle a toujours l'air justement dans la lune, notre Nyssen, notamment quand elle parle des pâtisseries de Bayeux au lieu de la tapisserie, ou se propose de promener la Joconde un peu partout en France. Cette cabale contre Françoise Nyssen, cette tragédie autour d'elle, a bien sûr sa part d'injustice. Son nom a été proposé par Marc Schwartz, devenu son directeur de cabinet, et qui voulait, dit-on, lui-même, ce Marocain, et pensait pouvoir peut-être en faire sa marionnette rue de Valois. Il a démissionné depuis. La conseillère culture du président, Claudia Ferrazzi, également un peu dans la lune, contribue à cet attelage calamiteux. Lorsque nous l'avons rencontrée récemment, elle nous a dit s'être enthousiasmée après avoir acheté un morceau de musique sur Deezer. Sur Deezer, vraiment ? Acheté ? Bref, tout le monde se ligue contre cette ministre millionnaire qui a commis certes des erreurs de mezzanine et de déclaration de patrimoine et a publié les livres de Sylvain Faure, la plume communicante d'Emmanuel Macron, notamment son ouvrage sur Herbert von Karajan, que l'on écoute à l'instant dans son interprétation de Bizet. En lisant le portrait émouvant et terrible d'Anna Cabana, on se prend paradoxalement à aimer cette ministre qui ne colle pas. Elle nous touche par sa tristesse et son rire rentré. On s'émeut de son émotion. Elle nous intimide à force d'être timide. Cabana ne le dit pas, mais on y pense très fort et on se souvient de l'opérette célèbre « L'Arlésienne ». C'est un conte des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, mis en musique justement par Georges Bizet. Et dans ce drame fameux, tout le monde parle de l'Arlésienne, une figure qui fascine et perturbe, un personnage dont tout le monde parle, qui inquiète et fascine, mais qu'on ne voit jamais. Anna Cabana, la tragédie Nyssen dans le JDD ce week-end. L'actualité, comme chaque semaine pour commencer cette émission, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias, avec pour commencer, Zoé Sfez, la disparition qu'on a apprise aujourd'hui de René Pétillon.
René Pétillon, dessinateur, une figure, un représentant d'une génération, dessinateur aussi d'une certaine génération qui s'en va. Il avait 72 ans, un humour très corrosif, très français, très désabusé. Il a commencé à dessiner très tôt en fait, ça fait partie de ce genre de dessinateurs qui ont commencé à peine 18 ans, en 68, avec des dessins qui paraissent dans Planète, dans Plexus, dans L'Enragé, et une première BD parue en 72 dans la revue Pilote. Juste après ça, en 74, il crée un personnage qui va être un des vétérans des personnages de la BD française, qui est celui de Jack Palmer, détective un peu Groucho Marx, un peu Kakoshim, et qui, en fait, premier album, on est en 74, la dernière série, le dernier album est paru en 2013, donc c'est une grande, belle longévité, plus de 15 albums. Ce dernier album s'appelait Palmer en Bretagne, et d'ailleurs, René Pétillon était breton, il était originaire du Finistère, c'est probablement pas un hasard. Cet album-là lui avait valu notamment le prix du meilleur album au festival d'Angoulême, et c'était L'Enquête Corse. L'Enquête Corse, c'est l'un de ses numéros les plus connus, qui a été adapté ensuite au cinéma, avec plus ou moins de bonheur, avec Christian Clavier dans le rôle du détective. C'était aussi, et ça il faut le rappeler, Pétillon, un grand maître du dessin satirique. Il a travaillé à partir du milieu des années 90 et jusqu'à il y a quelques mois seulement, pendant 24 ans, Canard Enchaîné, un très bel ouvrage qui s'appelle Un certain climat, est paru il y a deux ans avec l'essentiel de ses dessins de satiriste. Et puis, à mi-chemin, n'oublions pas, une série assez géniale de dessins qui était parue dans les années 70 dans les matins de Paris et qui s'appelle Baron Noir, qui est une espèce de série à mi-chemin entre la BD et la satire politique, avec des administrés français qui sont des moutons et qui essayent désespérément d'échapper aux griffes noires d'un aigle. Le Baron Noir, c'est à relire si vous ne l'avez pas encore fait.
France Culture, 19h11, Soft Power en direct. Deuxième actualité cette semaine, on a appris, en fin de semaine d'ailleurs, Zoé Sfez, que un certain nombre de comptes, et en l'occurrence plusieurs millions, avaient été piratés, donc compte Facebook.
Compte Facebook, Facebook qui a annoncé vendredi donc qu'il a été victime d'une attaque de grande ampleur qui aurait permis de pirater au moins 50 millions de comptes. Facebook en a déconnecté 90 millions. Et alors, on est sur une troisième faille de sécurité chez Facebook après le scandale de Cambridge Analytica, après plusieurs scandales liés aux données accessibles à des opérateurs de smartphones. On est là encore sur une attaque où en fait, finalement, Facebook ne nous dit rien. Il ne nous dit pas qui a été communiqué, combien de temps cette attaque a duré, quelle est son ampleur, si par exemple des Français sont visés. Et ce qui est très intéressant finalement, c'est les interviews que donne Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique à la suite de cette attaque, et qui notamment dans une interview à France Info explique eh bien, qu'il n'a pas plus d'informations sur cette attaque, il n'a pas plus d'informations de la part de Facebook que nous-mêmes en avons. D'ailleurs, lui explique que son
ça sert à quelque chose d'être ministre,
a été déconnecté, et on sent quand même une forme d'agacement, enfin même plus une assez grande agacement. Ce qui est certain avec la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données, nous dit-il, c'est que nous attendons beaucoup plus de la part de ces plateformes, beaucoup plus de transparence lorsqu'elles commettent des erreurs et beaucoup plus de responsabilité. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux Français ? Nous lui demande France Info. Il recommande à tous les Français sur toutes les plateformes de passer en revue l'ensemble de leurs données personnelles. Il pourrait tout à fait être possible, selon moi, qu'un jour, toutes nos données postées sur ce type de plateforme puissent fuiter. Conclusion, à demi-mot, cela dépend de la sensibilité de chacun, mais cette faille, nous dit Mounir Majoubi, apporte la démonstration que ces plateformes ne sont pas des coffres-forts. Il invite presque à demi-mot une bonne partie des Français de quitter Facebook.
Mmh. Dernière, troisième actualité ce soir en ouverture de Soft Power. On a appris aussi également cette semaine que Netflix allait non seulement ouvrir un bureau en France, ce qui est déjà une information, mais aussi continuer à investir massivement dans la production de films et de séries en France.
Oui, alors c'est une annonce quand même assez importante parce qu'on a eu Reed Hastings, le DG de Netflix, qui est venu en France, qui est venu assister au tournage de la série française futuriste qu'il a commandée qui s'appelle Osmosis, qui fait partie des quelques productions françaises qui ont été annoncées par Netflix. Il annonce donc qu'après Amsterdam et Londres, eh bien, il va y avoir un bureau d'une vingtaine de personnes qui va ouvrir à Paris. On n'en sait pas plus. Mais, dit-il, le but, c'est de pouvoir pitcher des projets le plus vite possible. Pourquoi, nous dit-il ? Eh bien, parce que nous avons un bassin d'abonnés qui est en croissance très rapide en France. Il nous parle de 3,5 millions d'abonnés. C'est un chiffre important. C'est toujours très difficile d'extorquer des chiffres à Netflix. Et il annonce, évidemment, dans la foulée, eh bien, encore la création donc, de 3 nouvelles séries commandé 3 films de fiction et un documentaire à des Français, sachant qu'on savait déjà qu'il y aurait donc cette nouvelle série Osmosis, une fiction musicale The Eddie qui est produite par Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. On va avoir Eugene France réalisé, interprété par Gad Elmaleh, et une adaptation d'Arsène Lupin avec Omar Sy. Ça fait en tout donc 14 nouvelles productions annoncées pour l'année prochaine avec Netflix, et Reed Hastings nous annonce que ce chiffre pourrait encore doubler si les succès d'audience étaient au rendez-vous. Il annonce aussi évidemment qu'un accord a été trouvé avec le CNC avec la taxe Netflix de 2% qui doit financer la production française, et explique que Bruxelles, qui va devoir bientôt exiger, qui exige de toutes les plateformes d'exposer au moins 30% d'œuvres européennes, eh bien, nous serons en avance sur ces chiffres, nous annonce Reed Hastings, qui explique aussi qu'il est toujours en négociation avec le Festival de Cannes pour pouvoir peut-être participer l'année prochaine.
Dans un instant, on parle de mode à l'occasion de la Paris Fashion Week. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine par une actualité musicale, voici Lil Wayne qui invite Kendrick Lamar sur son nouvel album et honore la Joconde, Mona Lisa. Ça, c'est du soft power français en écho au duo Kanye West et Beyoncé cet été. L'album The Carter 5, le cinquième donc de la série, est sorti vendredi. 23 titres que les fans attendaient depuis bien longtemps. Inégo certes, mais toujours intéressant chez Lil Wayne, l'un des plus grands rappeurs américains. Il est capable d'exceller dans plusieurs univers à la fois, plusieurs sous-genres du rap, chaque titre racontant en lui-même une histoire, comme celle sur le sourire d'une femme, ses fausses promesses, ses infidélités. Mona Lisa. Nappy as dress, what's that you say? Watch your mouth, Millie Vanilli. Ooh, you can get snakes, you can get faced. I'll buy the bitch that you feeling, cause you thought she was an angel. That bitch ain't no angel. I treat her halo like a frisbee, and you tell her your business, she tell me your business. You tell that bitch what you feeling. All of the beans you be spilling to you, she like through her tea cavities feeling. She know where you had it, tell me where it's hidden. She know when you gone, tell me when to visit. We breaking your home and take the specifics in me while the bitch.
bitches on vacation with him so she don't get blamed. We don't snatch things, we find out addresses, and we don't leave messes. You'll only know that it's gone when you check it. Then your first thought is to start second guessing. She say what's wrong, he say nothing, keep resting. She say what's missing, how you know something missing? He scratched his head, she say get back in bed, and she gave him some head. Boy, you can't trust them bitches, then did she say, ooh, I see niggas in this bitch, stunting, popping bottles, getting drunk with these bitches, and when they leave, they get followed. I be with bitches that know the bitches, that's what the niggas we following. Get them on the line, stay two cars behind, and tell them hoes don't be so obvious. Mona Lisa, long hair don't care, she handle the business and don't ever tell. She bite the bullet and cuff up the shell.
Voilà, Lil Wayne répétant Mona Lisa dans ce titre avec Kendrick Lamar, qui est sorti vendredi. Vous êtes dans Soft Power sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. Mes invités ce soir sont Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Jean-Pierre Blanc, fondateur du festival de hier consacré à la mode, à la photo de mode et aux accessoires. Et nous sommes dans une émission consacrée au Soft Power de la mode à l'occasion de la Fashion Week de Paris qui se terminera demain, je crois.
Après-demain.
Pascal Morand, vous êtes le patron, l'organisateur, je ne sais pas comment on doit dire, de la Fashion Week en France. Ça arrive après, avec, en parallèle, surtout après en l'occurrence, de ce qui se fait à New York, à Londres et à Milan. Ma première question peut-être, où se situe Paris sur cette scène mondiale de la mode ?
Ça ne devrait pas être à moi de le dire, mais Paris se situe très bien. Je suis probablement, comme vous l'avez
vous
dit, président.
Fier.
Ah oui, bon, très fier, mais enfin, faut jamais être trop fier. Hein. Faut toujours être, méfiant,
changer,
mais extrêmement
bouger,
attentif et travailler continuellement. Enfin, comme vous l'avez dit, je suis effectivement président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Le président est Ralph Toledano, et avec toute l'équipe de la fédération, d'un certain nombre d'activités, nous coordonnons. Alors, on ne va pas dire coordonner la Paris Fashion Week, qui est un événement très global.
Chacun fait.
Mais on coordonne le calendrier officiel, très précisément, de la Paris Fashion Week.
En l'occurrence, il y en a 6 d'ailleurs, 6 par an.
Voilà, alors il y a absolument, disons 4 plus 2. 2 pour la mode féminine, 2 pour la mode masculine et 2 pour la couture. Alors on ne dit pas exactement Fashion Week, on peut utiliser ce terme. Enfin,
et à 2 saisons différentes, automne-hiver et puis printemps-été.
Ce qui fait un total de 38 jours. Et c'est pour ça que le concept de Fashion Week est un concept générique. C'est pas une semaine, c'est 38 jours.
Et si on ajoute les New Yorkais, les Milanais, les Londoniens, ça fait 100 jours par an pratiquement.
Ça fait absolument 100 jours.
Donc on est toute l'année en Fashion Week.
Ça fait absolument 100 jours. Et puis si vous rajoutez les Fashion Week qui fleurissent partout dans le monde, parce que d'un point de vue de
modernité...
Il y a aussi
d'autres petites villes lointaines qui en font aussi.
Mais bien sûr. Toutes les métropoles, toutes les capitales, d'un point de vue de modernité... Et dans une perspective de soft power, chaque ville aujourd'hui, chaque métropole ou grande ville ou capitale veut avoir sa Fashion Week.
La mode, c'est une industrie culturelle pour vous ?
Ah ben moi, je crois profondément à ça. Je préfère, vous avez utilisé le terme d'industrie créative. C'est un terme que vous utilisez régulièrement et c'est le terme qui me paraît approprié. Puisqu'il y a toujours cette tendance, sans revenir sur d'autres sujets, à distinguer en France les industries culturelles et les industries créatives et qui constituent un tout. Donc absolument.
Est-ce que dans cette fameuse question, entre l'industrie de la mode et l'industrie du luxe, quelle est la porosité ? Comment est-ce que, justement, on peut essayer de comprendre la différence entre les deux ? Parce qu'on a toujours l'impression que la mode est un lieu de création, le luxe moins.
Ben c'est là que les choses commencent à être intéressantes.
Ben oui.
Vous me posez une très bonne question.
Et complexe.
Oui, complexe, mais fondamentale. Parce qu'effectivement, il y a une différence a priori de nature, dans le sens où la mode est ici et maintenant, elle est dans l'éphémère, tandis que le luxe s'inscrit dans la durée. Mais en fait, il y a des interactions fortes. C'est-à-dire que le luxe a besoin de mode et de créativité.
De se renouveler, oui.
En termes de créativité. Et la mode, pour durer, et pour avoir des marques qui durent, doit s'incarner, tend à s'incarner, selon le projet de mode, selon le type d'entreprise, selon le modèle économique, peut s'incarner potentiellement dans une marque de luxe.
Parce qu'on a l'impression parfois que la France est effectivement leader sur le luxe, et plus tellement aujourd'hui sur la mode, c'est une impression.
Et la mode, il y a la mode peut être comprise au sens sectoriel ou en tant que système, au sens de Barthes. Donc,
système de la mode, Roland
voilà,
Barthes.
Absolument. Ce qui est certain, c'est que s'agissant des marques créatives, très créatives et internationales, Il y a un incontestable leadership qui tient au fait que c'est en France que se situent la plupart des grandes marques, enfin un grand nombre de grandes marques, ou de marques d'ailleurs plus jeunes, très créatives.
Et de groupes,
également
d'ailleurs.
De groupes.
Ouais, c'est-à-dire LVMH, Kering, Chanel et Hermès, pour prendre les quatre grands, c'est ça?
Absolument. Et c'est quelque chose de tout à fait important, les groupes, parce que les groupes détiennent un certain nombre de marques françaises, mais pas seulement, aussi des marques italiennes ou des marques d'autres pays. Donc la puissance des groupes est un facteur important, essentiel même. Et l'enjeu, si on situe le sujet sous l'angle, on va dire, de politique globale ou nationale, la présence de ces groupes est indissociable aussi de celle des jeunes marques et de ce foisonnement de jeunes marques. Alors après, il y a un ensemble, sans être trop long, il y a un ensemble de segments de mode sur lesquels les marques françaises sont plus ou moins brillantes. Mais s'agissant des marques créatives internationales, c'est incontestable. Mais il y en a d'autres également. Hein.
Que représente Paris et sa mode au niveau mondial? J'ai posé la question à une critique plus indépendante parce qu'elle n'est pas française, Vanessa Friedman. C'est la journaliste mode relativement célèbre, très célèbre, du New York Times.
It represents history.
Ça représente l'histoire, la technique, les compétences et une certaine forme de sophistication qui, je pense, a créé un superbe rôle d'ambassadeur dans le monde. Ça représente aussi beaucoup d'argent.
Ça veut dire que c'est presque davantage une idée qu'une place, qu'un lieu précis.
C'est devenu une idée, je pense. Comme le monde est devenu un univers plus global et interconnecté, la mode française s'est métamorphosée, passant d'un système typiquement national, où les entreprises sont dirigées par les fondateurs français, à un paysage vraiment multiculturel, où l'on trouve des gens du monde entier qui adhèrent à cette idée, qui valorisent une sorte d'éthique de ce que cela représente.
Quelles sont les faiblesses pour vous du modèle français ?
C'est intéressant de voir qu'il y a assez peu de designers français à la tête des maisons françaises, ce qui témoigne peut-être d'un besoin de formes différentes d'éducation, de cultiver les talents locaux. Et je pense qu'en France, vous avez labellisé le fait qu'une partie de la proposition de valeur réside simplement dans le fait que ça a été fait dans ce pays. Alors que ça commençait à être identifié comme un gage de qualité, quand ces marques sont devenues de plus en plus importantes, c'est presque devenu une limite. D'une certaine façon, c'est une appellation trompeuse, car c'est la marque elle-même qui devrait prendre la responsabilité de la qualité de ce qu'elle produit. La qualité ne devrait pas être liée à un pays. Fait par Louis Vuitton, fait par Givenchy, fait par Céline, devrait être une preuve de qualité, pas fabriquée en France.
Paris est encore une capitale, un hub pour la mode à travers le monde. Et quels sont ses principaux challengers?
Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il y ait le moindre concurrent. Je pense qu'on parle beaucoup dans les journaux de la disparition du papier et qu'on sera le dernier à tenir debout. Et je ressens la même chose à l'égard des Fashion Week. Il y en a eu tellement qui sont apparus dans le monde entier que vous pourriez presque aller à une Fashion Week par semaine de l'année dans un pays différent. On le voit dans les faits, la Fashion Week de Paris dure maintenant 10 jours. C'est de loin la plus longue du top 4, New York, Londres, Milan. Et je ne pense pas qu'elle va s'en aller de sitôt.
Voilà l'instant, la correspondante du New York Times, Vanessa Friedman, qui n'est pas d'ailleurs correspondante, elle était à Paris, mais elle est chargée de la mode dans ce journal. Avec nous également Jean-Pierre Blanc, fondateur du festival de hier. Peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre et peut-être un peu une réaction aussi à ce qu'on a dit en début d'émission sur l'état de la mode et de l'influence française.
Bah, les lobbies anglo-saxons sont très forts. Ils passent leur temps à dire qu'il n'y a pas d'école ailleurs qu'à Londres ou à New York. Si on les écoute, c'est ça tout le temps.
Mais c'est pas ce qu'elle vient de dire.
Oui, mais enfin, ça participe à cette idée. Vous voyez, il n'y a pas de créateur français important à la tête des grandes maisons. C'est faux. Anthony Vaccarello, Eddy Slimane, Julien Dossena.
Vaccarello, il est belge quand même.
Non, non, il a fait la Cambre, mais il est français. Mm-hmm. Et il est gagnant du Festival d'hier, d'ailleurs. Et
C'est Yves Saint-Laurent, hein, au passage.
Oui, Felipe Oliveira Batista. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait des écoles, certaines fois à l'étranger, mais qui sont français et qui dirigent des grandes maisons. Donc, moi, je pense que c'est un faux débat. Et on a longtemps laissé penser que toutes les grandes écoles étaient à l'étranger et que du coup bah nous on s'en sortait pas, et je ne partage pas du tout cet avis. C'est quelque chose de dissonant dans la communication globalisée de la mode, et comme les groupes anglo-saxons sont très très forts, comme je le disais tout à l'heure, et que la mode n'intéresse pas beaucoup les médias dans notre pays, c'est eux qui parlent souvent à notre place, et nous on a un peu tendance à laisser dire ce genre de choses, et du coup on en souffre à certains moments.
Mais Vanessa Friedman, au contraire, elle disait Paris est important, elle disait c'est la Fashion Week la plus importante, mais elle avait un point, et peut-être aussi sur ça, Pascal Morin, vous pouvez réagir. Elle dit beaucoup des designers, des couturiers ne sont pas français. C'est vrai que 24 nationalités sont présentes. Et elle dit aussi ces groupes, 50% des groupes qui présentent des collections ne sont pas français. Et en même temps, souvent, des groupes français ont des maisons qui ne sont pas françaises. Donc la question, c'est au fond, qu'est-ce que c'est la mode française dans un univers totalement globalisé ?
Et puis oui, qu'est-ce que c'est que la mode française, et qu'est-ce que c'est que la francité, parce que c'est
est-ce qu'Eddy Slimane c'est voilà. Des habits français, est-ce que Anthony Vaccarello chez Yves Saint Laurent c'est français, est-ce que Nicolas Ghesquière est resté avec des aspects français chez Vuitton, etc.
Ouais, bon, bien sûr, il y a les questions des créateurs français dont parlait Jean-Pierre, mais je dois dire que ce que dit Vanessa Friedman, je trouve ça agréable. C'est un effet de miroir qui est globalement plutôt plaisant, même si là aussi il faut toujours aller de l'avant. Je crois qu'il y a plusieurs choses par rapport à ça aussi, dans le prolongement de ce qu'a dit Jean-Pierre. D'abord, si on parle de Fashion Week, on parle de Paris. Et Paris est une ville, justement, qui, du point de vue du rapport à la modernité, a toujours été, et par nature, structurellement, a toujours été et est ouverte sur le monde, cosmopolite. Et il a été dit que à différentes reprises que ce qui se passe à Paris en matière de mode, pas qu'à Paris, hein, aussi dans les choses formidables, dans les territoires, mais ce qui se passe à Paris, c'est le prolongement de l'école de Paris en matière de peinture. C'est-à-dire qu'il y a une attractivité.
C'est Pierre Berger qui disait ça.
Absolument, c'est Pierre Berger, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, et que je m'apprêtais à citer, absolument. Et ce qui fait que quand on est que tous les créateurs ou les couturiers qui viennent à Paris, qui défilent à Paris, d'une certaine manière, sont français. Mais ce qu'il faut dire aussi par rapport à ça, on pourra revenir sur les questions de formation, parce que là aussi on peut toujours s'améliorer. Il y a des projets par rapport à ça. Des grands projets d'ailleurs. Un dernier mot sur la question de la production, parce que c'est important en termes économiques. C'est vrai que la production des marques, c'est un garant de qualité. Les marques représentent et incarnent tout ça. Mais il faut aussi prendre en considération le fait qu'il y a des ateliers en France. Il y en a aussi, il y a une dimension européenne. Le savoir-faire est extrêmement important. Et il y a un rôle économique, outre la Fashion Week, il y a un rôle économique qui est très conséquent.
Qui pèse combien à peu près ? Vous avez fait faire
Écoutez,
des études
si on raisonne par rapport
au niveau global et au niveau national.
Au niveau global, sans parler des marques et du poids des marques sur l'international. Mais si on raisonne, si on travaille avec les catégories INSEE et de pourcentage et d'importance relative par rapport au PIB, on est globalement sur les activités de mode, bon, en incluant aussi la distribution, en incluant tout, on est à 1,7% du PIB en activité directe, et 2,7%
en milliards, ça fait combien et en nombre d'employés?
Ça fait 150 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait 36 milliards de valeur ajoutée.
Et en nombre d'emplois?
Alors, en nombre d'employés, ça fait 580 000 en direct.
Considérable dans l'économie française.
Un million en incluant les emplois directs.
Alors là, on met le prêt-à-porter, les chaînes de masse,
et la maroquinerie, la bijouterie, joaillerie, tout
les accessoires, les photos, les journaux de mode.
Tout ce que la terminologie économique qualifiait autrefois de ce nom extrêmement bizarroïde et très passéiste, d'équipement de la personne.
Ah, c'est bon. Bien, équipement. Alors Jean-Pierre Blanc, vous avez le festival de l'équipement de la personne. Ça s'appelle le festival de hier. Avec les accessoires, les photos et bien sûr la mode.
Oui, c'est un festival qui existe depuis 34 ans cette année, qui est leader français depuis tout ce temps-là, qui a pour vocation d'accompagner au tout début de leur carrière des très jeunes créateurs, juste après l'école. Donc on se situe à un moment clé...
Les post-bac, ce qu'on appelle. Les post...
Les post-doc,
voilà.
Un moment très fragile de la création des marques, et donc important. Et pour revenir sur... cet aspect leadership, même si c'est pas quelque chose de très très important pour moi, on se rend compte quand même qu'en France, on est vraiment leader dans l'accompagnement des jeunes créateurs. Il y a beaucoup de grands concours. Donc il y a celui d'hier dont je m'occupe depuis de très nombreuses années. Il y a celui de l'ANDAM qui est porté par des groupes privés et par le ministère de la Culture. Il y a celui du groupe LVMH et puis il y a toutes les aides apportées par la Fédération
de la Couture. Quelques noms que vous aimeriez citer qui vous ont un peu bluffé ces dernières années. On sait que parmi les jeunes Français qui ont eu des prix, notamment hier, en 2017, il y avait Vanessa Schindler, on cite souvent Marine Serre, on cite Simon Porte-Jacquemus, Hugo Mata, Marina Schedel. Vous auriez un ou deux noms supplémentaires, nouveaux, qui vous ont plu tout récemment ?
Je pourrais citer les lauréats du festival d'hier de l'an dernier. Avec un coup d'accélérateur assez spectaculaire, puisqu'ils viennent d'être nommés à la tête de la maison Nina Ricci. Donc c'est la première fois qu'un lauréat aussi jeune du festival d'hier, qui promeut vraiment des très jeunes créateurs, encore une fois, se retrouve à la tête d'une maison. C'est plutôt enthousiasmant.
Et c'est quel est son nom ? Parce que vous ne l'avez toujours pas dit.
Il s'appelle Botter. Il s'agit de deux designers qui vivent à Amsterdam, qui sont installés à Paris depuis leur nomination. Ruchemi et Lisa. Et voilà, on les retrouvera donc au mois de mars à la tête de cette maison française qui appartient à un groupe espagnol.
Alors Jean-Pierre Blanc, c'est intéressant parce que le festival de hier qui a donc 34 ans, il faut essayer de rappeler un peu ce que c'est, mais ça se passe à la Villa Noailles. On a l'impression qu'il y a aussi dans ce festival, effectivement, qui met en valeur des jeunes créateurs. C'est d'ailleurs très intéressant. Il y a notamment ce défilé assez fascinant où ils défilent avec leur création propre, puis on leur demande de s'acclimater, de reprendre des éléments d'une marque qui change plusieurs fois. Donc c'est assez intéressant de voir aussi la mise en scène. On a l'impression que sa vocation, c'est aussi de mettre en scène la créativité. Et ensuite, avant de passer à l'industrie, j'ai l'impression, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a un paradoxe. En France, les médias, vous disiez, s'intéressent peu à la mode, comme s'il y avait une forme de mépris. Et moi, j'ai quand même eu la sensation, en allant à ce festival, que vous mettiez l'accent délibérément sur la dimension créative de la mode et pas sur sa dimension industrielle. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'ambiguïté ou de paradoxe de la France qui souvent estime, quand on parle de l'art, et qui revendique une identité culturelle et qui finalement a peut-être du mal avec ce qu'est la mode, à la fois en art et une industrie.
Bon, pour en faire sûrement
une émission complète.
Moi, quand je suis arrivé au festival, quand j'ai créé le festival d'hier dans les années 80, il y avait au ministère de la Culture des gens formidables qui avaient le titre de chargé de mission pour la mode.
Et qui portait ces sujets.
C'était une époque de Jack Lang, Pierre Berger. Aujourd'hui, si vous demandez au ministère de la Culture qui est la personne qui est en charge de la mode, il n'y a pas la même personnalité ou les mêmes enjeux qu'à cette époque-là. Même si, avec les dernières ministres, les choses ont beaucoup changé quand même. Mais c'est un vrai paradoxe qui, moi, m'intéresse particulièrement. Vous disiez que le festival se déroulait à la Villa de Noailles. Je pense souvent à l'esprit de Charles et Marie-Laure de Noailles, sur lequel on sort leur biographie dans quelques semaines. Je ne crois pas du tout, je suis quasi certain, que Charles et Marie-Laure de Noailles ne faisaient absolument aucune différence entre leur ami Christian Dior et leur ami Jean-Michel Franck. Christian Dior, couturier, et Jean-Michel Franck, designer. Et pour eux, à cette époque-là, il s'agissait d'artistes merveilleux qu'ils vénéraient, qu'ils respectaient, qu'ils accompagnaient. Et on a pris cette décision, on a choisi cette direction à la Villa de Noailles et au Festival d'hier de montrer la mode créative et d'encourager les créatifs dans le domaine de la mode.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h35, on parle ce soir du soft power de la mode à l'occasion de la Fashion Week de Paris qui a lieu en ce moment. Et on s'intéresse avec Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, et Jean-Pierre Blanc, fondateur du Festival de Hier, aux évolutions de ce secteur. J'ai interrogé Vanessa Friedman, donc la critique mode du New York Times, sur un autre sujet maintenant, à savoir plutôt les médias et les influenceurs. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est un métier différent d'abord d'être un critique de mode par rapport à un critique culturel?
Non, je ne pense pas que ce soit différent. Je pense qu'on porte tous un même regard sur nos sujets. On cherche à voir comment ils s'intègrent dans le monde d'aujourd'hui. Comment ils ont évolué de pair avec la société, comment ils reflètent les évolutions culturelles, en quoi sont-ils pertinents pour le public. C'est la même chose. Vous restez juste indépendant. Vous devez reconnaître que votre boulot, c'est de traduire ce que votre industrie fait pour vos lecteurs, auditeurs ou utilisateurs. Et c'est envers eux que vous êtes responsable. Et pour réussir ça de façon efficace, vous devez être indépendant. Vous devez leur être redevable à eux, pas à l'industrie.
Voilà, Vanessa Friedman du New York Times. Pascal Morand, une question sur cette évolution, et Zoé Fès y reviendra tout à l'heure avec le petit invité, enfin l'invité à 20h. Les nouveaux influenceurs et les critiques de mode, c'est un secteur qui a considérablement changé du fait d'Internet ces dernières années, et notamment d'Instagram.
Instagram, j'irais très important dans la mode. J'irais la mode est probablement le principal secteur concerné par Instagram, et ceci s'inscrit dans le bouleversement général au-delà de la mode, du paysage des médias. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement le poids des influenceurs et des influenceuses est de plus en plus fort.
Tout ça étant très commercial, on a vu en l'occurrence, Eddie Slimane a fait son grand coup au mois d'août avec tout à coup une photo qui est apparue, une photo d'un sac porté au Louvre par Lady Gaga qui est devenue totalement virale de manière mondiale.
Qui a eu un succès, c'est un exemple.
Et puis ensuite, tout à coup, la marque Céline est apparue avec son nouveau logo qui l'a ramené vers les années 60 avec le E qui avait perdu son accent. Donc on voit là le poids, d'Instagram ou d'autres espaces photos pour lancer les influenceurs, pour lancer les marques.
Absolument, mais sachant que tout s'entremêle et qu'il y a un certain nombre d'Instagrammeurs et surtout d'Instagrammeuses qui sont extrêmement puissants et qui ont des millions de followers.
Par exemple, Chiara Ferragni,
dont on a pas mal parlé récemment et pas seulement dans la mode, beaucoup chez les millennials à l'occasion de son mariage avec le rappeur Fedez, a plus de 15 millions de followers.
Victoria Beckham aussi, également.
Bien sûr.
Épouse de monsieur Stella McCartney, fille d'un autre aussi.
Absolument. Mais c'est aussi un impact important, y compris pour la Fashion Week, parce que ça ne relativise pas l'importance de la Fashion Week, au contraire, ça l'exacerbe. Parce que le lieu importe, le lieu est primordial, mais tout est anticipé. On anticipe encore davantage, évidemment, les photos et les images et la diffusion, le déferlement dans le monde de toutes ces images.
Mais en même temps, cette publicité et ces comptes Instagram, ils peuvent mener très rapidement à des sites de vente de mode en ligne. Je pense au succès actuellement de Wish, de Shein ou de Boohoo, par exemple, où on s'aperçoit qu'un Français sur deux achète désormais en ligne, pas tout le temps, mais de temps en temps, et que ça aussi, ça perturbe complètement ce secteur, le cas échéant, Jean-Pierre Blanc.
Oui, mais moi je voulais juste revenir sur les aspects positifs aussi des réseaux sociaux et des influenceurs, parce que l'avantage énorme aujourd'hui, c'est que ces gens peuvent parler librement, et pour parler librement de mode, il faut aimer la mode. La mode, ce n'est pas que un aspect commercial, ça ne renvoie pas systématiquement à un aspect commercial, on le disait tout à l'heure, bien sûr qu'il est capital et qu'il n'est pas question de le remettre en cause ou de le renier, mais aujourd'hui, on a retrouvé une liberté de ton que l'on avait perdu totalement grâce aux nouveaux médias, comme Instagram. Et il y a des gens qui prennent la parole et qui osent dire qu'ils aiment la mode et qu'ils aiment les créateurs et pourquoi ils aiment ou pourquoi ils n'aiment pas. Et ça, c'est nouveau. Alors, qu'ensuite... ces nouveaux propos, cette nouvelle manière de s'approprier la création de mode renvoie vers un aspect commercial, sûrement, mais pas que. Et moi, j'aime beaucoup, on a notre Sophie Fontanelle nationale quand même, journaliste qui passe ses journées à nous parler de ce qu'elle aime porter, des gens qu'elle aime et des gens qu'elle apprécie dans ce métier. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est nouveau. Et ça nous accompagne dans le renouveau de la création de mode aujourd'hui.
Pascal Morand, sur ce
sujet. Il faut bien comprendre que la culture de mode, de la Fashion Week et globalement de la mode française, est une culture de créativité, où tout est centré sur la créativité. Et il y a toujours un enjeu de commercialité. Mais comme le dit Jean-Pierre, en l'occurrence, c'est pas l'enjeu immédiat. Et là, il faut bien distinguer par rapport à ça, quand on parle des marques dont le marketing est indissociablement lié à la créativité, et celui qui tourner de prime abord vers le consommateur.
Donc c'est pas Zara les Espagnols, c'est pas H&M les Suédois, c'est pas CNA les Néerlandais. La France, c'est un peu comme dans le cinéma, c'est des artisans, des indépendants et de la qualité créative.
Oui, c'est notamment ça, mais c'est aussi une grande industrie et des grands groupes comme on l'a dit, mais c'est l'ensemble de tout ça et le savoir-faire. Et je dirais que ce qui réunit les acteurs de la mode dont nous sommes, c'est de toujours garder le cap sur la créativité, sur la culture et sur l'excellence, inlassablement, et sur la sélectivité.
C'est sûrement une forme d'exception culturelle française dans le domaine de la mode. On le dit pas pour les raisons que vous disiez tout à l'heure, parce que ça fait mal aux oreilles de dire que la mode renvoie à la culture, mais nous, je pense avec Pascal, on partage tout à fait cette chose-là. On est sur une exception culturelle française dans la mode, avec les savoir-faire, vous imaginez, par exemple, la maison Chanel qui a plus de 12 ou 15 maisons d'art qui ont été sauvées parce que rachetés par ce groupe, et qui permettent aujourd'hui à toutes les maisons autour d'aller continuer à collaborer avec des savoir-faire exceptionnels comme Le Sage, Le Marié, Massaro, Maison Michel, c'est exceptionnel. Et donc, je pense qu'il est très défendable à beaucoup d'égards et à beaucoup de points de vue que la France a une place très particulière dans le monde de la mode.
Et c'est une exception française qui s'exporte très largement. Les marques créatives internationales, elles exportent à 90%. Et globalement, même le taux d'exportation est important.
Et le numéro 1 mondial du luxe, ça reste Bernard Arnault, à savoir LVMH avec Christian Dior, Givenchy, Céline, Kenzo, Fendi, etc.
Mais quand même, avec une question, avec ce changement, pas de paradigme, mais disons de modèle. Tout à l'heure, vous disiez que cette créativité dans la mode française, c'était l'héritière de l'école de peinture de Paris. Vous citiez Pierre Berger, on sait que d'ailleurs dans le film qui a été pensé, coécrit avec lui, on voit Yves Saint-Laurent qui dit « Ma collection de 75, c'était une collection de peintres et je suis le dernier ». Or, là, elle le disait, Vanessa Friedman, il y a une telle porosité aujourd'hui entre les gens qui regardent cet art, les critiques, qui finalement parfois sont financés par des marques et n'en sont pas tout à fait indépendants, que ça peut probablement être problématique. Et puis il y a aussi des grands perdants, et vous devez évidemment le savoir, on en parle souvent même ailleurs, il n'y a pas des grands perdants, mais il y a des gens dont le statut a beaucoup changé, ce sont les photographes, ces dernières années, les photographes dans la mode, qui auparavant vivaient bien, notamment des photos qu'ils faisaient pour la presse. Or aujourd'hui, la presse n'est plus du tout un endroit où les photographes de mode sont bien payés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus la presse qui achètent des images déjà préfaites par les marques. Donc ça pose aussi des questions sur, disons, les évolutions des secteurs et surtout les images que la mode crée, la capacité.
Alors, sur les évolutions de ce secteur, on voit beaucoup de choses se passer. On a parlé des influenceurs, on pourrait parler des corners, c'est-à-dire ces petits espaces propres à une marque qu'on va retrouver dans des hypermarchés ou en tout cas dans des grands magasins qu'ils s'appellent le Bon Marché, le BHV à Paris, mais aussi partout ailleurs en France. On va parler des pop-up stores, c'est-à-dire ces petits magasins qui émergent partout avec des couturiers, parfois des designers, des créateurs qui y sont. Parlons un peu dans ce secteur des évolutions du numérique. Et vous avez, dans le rapport que vous avez fait sur le soft power de la mode, Pascal Morand a évoqué un certain nombre de choses, le rôle de la blockchain, de l'intelligence artificielle, l'automatisation, ce que vous appelez les sous-boats, je ne sais pas comment on le prononce exactement, les technologies d'immersion et tout ce qui va être autour la façon aussi de créer ces objets, notamment les imprimantes 3D. Oui. Comment vous voyez cette évolution très très majeure, ces évolutions très majeures qui ont lieu dans ce secteur ?
D'abord, comme dans d'autres secteurs, c'est les évolutions qui ne viennent pas de se produire. Elles existent depuis quelques... Enfin, elles sont en cours depuis quelques décennies. C'est toujours cette histoire que l'impression 3D, on appelait ça auparavant prototypage rapide, etc., etc. On pourrait prendre les mêmes arguments pour la réalité virtuelle. Mais il est clair que la révolution d'Internet et du software en général bouleverse et accélère les choses. Enfin, moi, ce que je pense profondément, c'est que c'est une opportunité. Il ne faut pas en faire un mythe. C'est une opportunité extraordinaire. On a vu des défilés, là, ce matin encore, avec Balenciaga, qui font appel à la réalité virtuelle et qui donnent un potentiel scénographique très largement amplifié. Donc, on peut prendre ces nouvelles technologies matérielles d'une par une, et on voit à chaque fois qu'il y a des formidables opportunités.
Mais sans être pessimiste, est-ce qu'elle n'affecte pas le modèle français et montre certaines de ses limites, le cas échéant ?
Non, je ne crois pas, parce qu'elle, absolument pas, parce qu'en fait, au contraire, elles sont un potentiel d'innovation, elles représentent un grand potentiel d'innovation, et la question est toujours de voir comment l'innovation se marie à la création, à la créativité, à la création. Et puis, dans le modèle français, il y a cette l'importance fondamentale de la créativité, du savoir-faire. Or, il y a aujourd'hui un effet de balancement. C'est pas des vases communicants, mais donc il y a un rééquilibrage. Aujourd'hui, il y a un cap dans la mode et dans tous les secteurs qui est celui de l'unicité, qui est celui du savoir-faire, qui est celui de la personnalisation. Et on voit bien que ce mix, toutes les opportunités offertes par les technologies de l'immatériel, au savoir-faire traditionnel. On n'a jamais autant parlé des ateliers qu'aujourd'hui.
Jean-Pierre Blanc ?
Oui, moi je voulais dire que ce sont de nouveaux outils qui s'offrent aux créatifs. Et c'est comme tel, je pense qu'ils doivent être utilisés. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut s'en apercevoir. À l'école, les étudiants en matière de mode, ils ne subissent pas du tout et ils ne souffrent pas du tout de ces nouveaux outils. Ils les utilisent ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est comme pour moi quand on parle de mondialisation. On a eu sûrement des excès terribles. C'est-à-dire que dans la mode en particulier, vous alliez dans n'importe quelle ville du monde, toutes les boutiques se ressemblaient. C'est-à-dire que vous voyez la boutique à Paris, à New York, à Tokyo. On avait exactement la même chose. On était en train de revenir là-dessus.
Vous voulez dire que c'est ni bon ni mauvais en soi, ça va dépendre un peu de
l'utilisation. Oui,
sur ce sujet, dans votre rapport Pascal Morand, Soft Power de la mode, rapport qui s'intitule exactement Technologie et Soft Power, le cas de l'industrie de la mode et du luxe, qui est en ligne, on mettra les liens sur Internet, justement, sur les réseaux sociaux, tout comme Twitter, au hashtag Soft Power. Vous dites par exemple que la blockchain peut être un nouvel outil dans la lutte contre la contrefaçon.
Bien sûr. Du point de vue de la traçabilité, de l'identification de tous les maillons de la chaîne de valeur, et c'est pour ça que c'est suivi d'extrêmement près et mis en œuvre aujourd'hui par les acteurs, aussi bien du côté de la technologie de la mode que du côté des directions juridiques. Tout à fait.
Zoé Sfez.
Sur la question de la formation, qui est quand même une question cruciale, on a entendu tout à l'heure Jean-Pierre Blanc s'insurger contre les Américains ou les Anglo-Saxons qui nous disent qu'en France, il y a peu de formation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens chez vous qui sortent des écoles de Londres. Récemment, il y a une formation qui a été créée à Seine-Saint-Denis qui s'appelle Casa 93 par une Française qui s'appelle Nadine Gonzalez, école presque gratuite en tout cas, qui consiste c'est-à-dire on va aller prendre des étudiants en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas les moyens de se payer des écoles de mode.
Il y a aussi les rapports entre LVMH et Station F, etc. Mais
elle en est où, cette formation
l'école,
française
l'école de mode dont on parle pour quoi, 2020 ?
Pour 2020, mais dès 2019. Dès 2019.
Alors ça sera quoi exactement ?
C'est un grand projet. Vous savez, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'effectivement, il y a d'ores et déjà des bonnes écoles, mais c'est vrai qu'il y a une accélération, notamment à Londres. Lors de la mise en œuvre, et c'était très bien, d'une politique largement en faveur des industries créatives. Eh bien,
en France, on a été
très puissant dans le domaine du management de la mode avec l'Institut français de la mode et puis avec d'autres écoles également. Il ne s'agit pas de faire
de machines. Alors, c'est quoi ce projet d'école de la mode ?
Ce grand projet, C'est un projet qui nous tient
à cœur,
la haute culture et la mode.
Mais c'est
particulièrement
quoi
particulièrement à cœur, et qui va consister précisément à intégrer l'école de la chambre syndicale de la haute couture, qui fait partie de la Fédération de la haute couture et de la mode, qui est une école à la fois de création et de technique, puisque ce sont de savoir-faire, puisque nombre des personnels des ateliers et des responsables y sont formés, eh bien, cette école va s'intégrer au sein de l'Institut français de la mode reconfiguré, ce qui fait que nous allons aller du CAP au doctorat, et avec un axe à trois dimensions, qui est l'axe du management, de la création et l'axe du savoir-faire, et puis tout ceci étant traversé par l'innovation, par le numérique et la tech, évidemment.
Et donc, dès 2019, et sinon c'est 2020, le projet.
Voilà, il y a eu un premier effet d'annonce l'année dernière. Maintenant, nous sommes en phase de travail, donc on va pas
avoir... Espérons que ce ne sera pas seulement un effet d'annonce.
En ce moment, avec les 11 groupes de travail en cours et le nombre de personnes impliquées dans ce grand projet...
Vous savez, parfois il vaut mieux une personne avec une vision que 11 groupes de travail, mais bon...
Oui, ben écoutez, il y a un certain nombre de visions. C'est une idée au départ de Raph Toledano et du comité exécutif de la Fédération de haute couture et de la mode. Mais vous savez, dans le monde académique, les projets ils sont toujours collectifs. Et c'est une autre forme de l'école de Paris, une école de Paris du 21e siècle qui se met en place.
Jean-Pierre Bierblanc.
Moi, je ne fais pas partie des groupes de travail pour la future école.
Mais vous avez une vision.
Mais non, on est sûr. C'est que si on n'a pas les moyens, si on ne donne pas les moyens à ce projet, et de grands moyens, on n'y arrivera pas. Tous les autres pays qui ont réussi, que ce soit en Finlande, qui est la meilleure école du monde actuellement, que ce soit à Londres, que ce soit en Belgique, avec la Cambre et l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, toutes ces écoles ont réussi parce qu'elles avaient des visions, absolument, et des moyens. Et en France, depuis de nombreuses années, les moyens n'ont pas été au rendez-vous. Donc je pense qu'il faut réussir, et c'est une vraie grande difficulté, à passer au-dessus de toutes les difficultés de ce projet. Pascal porte le projet d'une manière vraiment remarquable, mais ce projet, d'après moi, ne réussira que s'il a beaucoup de moyens.
En France, on n'a pas toujours du pétrole, mais on a des idées. On a aussi de l'influence. J'ai posé, parce que c'est aussi une des questions, pourquoi pas, de l'influence française, j'ai posé à Vanessa Friedman une question sur l'influence de la Première Dame, Brigitte Macron, au niveau de la mode.
Je pense qu'elle a été une figure marquante pour un grand nombre de pays qui regardent ce gouvernement. Elle incarne le changement et une nouvelle génération. Et on remarque une volonté de prendre ce rôle à cœur de femme très forte qui promeut l'égalité entre les époux. Aussi, vous savez, encourager les tendances mode et être ce genre de représentant de l'une des industries de son pays, c'est extrêmement précieux.
C'est une icône de la mode, sous quelle forme, selon vous ?
Je pense qu'elle est une icône de l'émancipation des femmes, plus que de la mode. Elle porte des vêtements qui reflètent ça. Elle a vraiment son propre style. Elle aime les leggings, les jeans, et elle les porte avec une jolie veste, Louis Vuitton ou une robe courte. Et je pense que ça reflète son approche de sa fonction.
Jackie Kennedy, Michelle Obama, Melanie Trump, en termes de fashion.
Le rôle de première dame aux États-Unis est très différent de ce qu'il est en France. Il occupe une place importante dans la conscience nationale. Les gens regardent vraiment ces femmes, d'autant plus depuis que tout est devenu davantage visuel en termes de communication. Elles représentent leur vision du pays, de la population et leur vision du gouvernement. Melania Trump, plus que n'importe quelle autre auparavant, est vue comme une représentante du gouvernement actuel. Qu'elle soit heureuse de ce rôle ou non est un autre débat. Elle a forcément changé cette fonction. Elle est moins communicante et moins publique que les premières dames précédentes.
Communicative one, she's less public, and
Et les choix qu'elle fait sont souvent opaques pour nous qui la regardons.
Voilà. Éloge pour terminer cette émission en demi-teinte de Mélanie Trump et Brigitte Macron par Vanessa Friedman, journaliste au New York Times, qui était traduite par David Lavoux avec la voix de Marine Beccarelli. Un mot de la fin à tous les deux, peut-être Jean-Pierre Blanc?
Moi, j'étais ravi d'entendre parler de Madame Macron parce que je pense que se préoccuper de la mode au plus haut niveau de l'État, ça a servi. Il y a eu ce grand dîner, par exemple, à l'Élysée. Ça a donné de l'énergie, de l'envie. Ça a donné du plaisir aussi et je pense que ça a fait partie de la mode et c'est important que le président de la République ait pris ce secteur à bras-le-corps de cette manière-là. Je pense qu'il le fera, j'espère, sur d'autres secteurs culturels aussi. On en a besoin.
Il l'a fait sur le cinéma, par exemple.
Oui, sur le design, l'architecture d'intérieur,
sur
peut-être
aussi. Sur le patrimoine
aussi.
Voilà. Pascal Morand,
oui,
aussi.
Oui, mais Jean-Pierre a tout à fait raison. Ce dîner a été tout à fait important. D'ailleurs, le projet auquel nous avons fait référence est...
Porté et soutenu par le
gouvernement et par les autres acteurs politiques et économiques.
Pour conclure, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que, je ne sais pas, il y a un designer que vous aimez vraiment? Je sais que vous ne pouvez pas le faire, le choisir parce que vous êtes la fédération qui unissait tout le monde, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en ce moment Anthony Vecchiarello, chez Yves Saint Laurent, qui a succédé à Edith Slimane. Slimane qui est chez Céline, on l'a dit, qui est complètement...
Il n'y a pas un peu un manque de femmes, toujours, comme toujours, chez les créateurs français?
Il y a Maria Grazia Chiuri.
On parle de deux pour Gisidior.
Chez les plus jeunes de...
Bah, chez Chloé, il y a cette merveilleuse Natacha.
Absolument.
C'est Lévy qui est vraiment très talentueuse. On pourrait en citer sûrement beaucoup d'autres.
Mais moi, juste pour... parce qu'il y a plusieurs choses sont frappantes. C'est-à-dire, c'est difficile de citer l'un ou l'autre. Ce qui est frappant, c'est de voir le degré de perfection et d'approfondissement de la scénographie aujourd'hui dans les défilés. On est vraiment dans l'œuvre d'art totale. Et puis, je crois qu'on peut souligner, même si on l'a déjà fait en début d'émission, le plaisir qu'on peut avoir s'affirmer le talent et l'affirmation du style de jeunes designers, de jeunes marques comme Marine Serre ou comme Jacques Mus ou comme d'autres.
Oui, je pense que cette fraîcheur des jeunes qui arrivent, c'est quand même, c'est à Paris que ça se passe. Pascal citait Jacques Mus, mais il y a Christine Funk chez Léonard aussi. Il y a beaucoup de talents comme ça, français, qui font un vrai boulot de création. Pas sur le devant de la scène parce qu'ils ont évidemment c'est pas les mêmes puissances de feu.
Ils sont encore jeunes, etc.
Voilà.
Oui.
Mais il y a une vraie scène créative française intéressante.
Et une volonté.
Oui.
Individuelle et collective.
Un plaisir. Oui.
Bien. Mais on a été optimiste ce soir pour une fois dans Soft Power. C'est une bonne chose. Merci infiniment à vous deux, Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, qui coordonnait la Paris Fashion Week qui se termine ce week-end, enfin dans deux jours. Et Jean-Pierre Blanc, fondateur du festival de hier, consacré à la mode, à la photo de mode et aux accessoires. Pour aller plus loin sur ces questions, sur la Fashion Week et le Soft Power de la Mode, les références, des rapports, des articles, des textes qu'on a cités ce soir sont à retrouver sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur les comptes Twitter et Facebook ou hashtag SoftPower. SoftPower dans un instant, seconde partie de cette émission avec à 20h10 le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine et nous serons pour en débattre avec Elisa Brown, journaliste au Figaro, et Gilles Fontaine, journaliste à Challenge. Et dans un instant, Zoé Sfez, à 20h, nous restons dans la mode avec votre invitée innovation qui vient de rentrer d'ailleurs dans le studio.
Elle s'appelle Valérie Jeanne Perrier. On va continuer à parler de mode, on va continuer à parler de numérique et on va surtout parler du système ou des systèmes médiatiques de la mode et comment Instagram, Twitter, Snapchat, mais aussi Periscope ont évidemment changé la manière dont on regarde et dont même consomme et on fabrique même de la mode aujourd'hui.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. Voilà, tout ça à suivre après Alejandro Escovedo sur France Culture.
change. They've broken all the pretty things, the records and the phonographs. If I could make a wish, we'd never gotten into this. We knew what we were getting into, didn't we? If I could turn back the clock, return all the dreams we lost in order to make the crossing. Was the price of Savo's life worth the blood and sacrifice? I don't think so.
À l'instant, le chanteur mexicain-américain Alejandro Escovedo, qui sort son 14e album solo coécrit avec un musicien italien et qui évoque l'Amérique anti-migrant de Donald Trump. Fasciné par le Texas hispanique, Alejandro Escovedo raconte des histoires de migrants de part et d'autre du mur qui sépare ou séparera les États-Unis du Mexique. Sa musique est un mélange, comment dire, de cowpunk latino. C'est une sorte de sous-genre de musique country, Tex-Mex, punkitoï. Mais assagi.
Quel programme.
C'est l'important, comprenez, un peu plus pop. Il a les honneurs sur une dizaine de pages du New Yorker ce week-end et un nouvel album, The Crossing, sur France Culture.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Valérie Jeanne Perrier.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en sciences de l'information et de la communication, vous êtes professeure au CELSA et vous vous êtes spécialisée sur la question de la transformation du journalisme et des médias avec l'arrivée des réseaux sociaux. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Internet a aussi changé la mode », sous-titré « Quand Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, Vine, Periscope, Tumblr et compagnie, parce qu'il y en a encore d'autres.
Il y en a encore d'autres.
S'affiche sur le devant des podiums. C'est un livre dans lequel vous essayez de comprendre justement ce qui a changé dans ce secteur de la mode et notamment dans ce secteur médiatique de la mode. Peut-être un petit peu avant de commencer et de comprendre un peu cette mutation, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quel était le contexte, qu'est-ce qui a changé, comment ça fonctionnait avant, dans l'avant, peut-être pas celui de Roland Barthes des années 60, décrit dans les années 60, mais c'était quoi ce système de filtre, de sélectivité, qui en tout cas fonctionnait très bien et sans perturbation, avec quels acteurs, jusqu'à ces dernières années ?
Avant, bien sûr, il y avait la presse magazine, hein, destinée à un public féminin qui rythmait les saisons de mode avec des numéros spéciaux qui, au moment des grandes saisons, des grandes semaines comme cette semaine, couvraient les défilés, les collections, les séries, mettaient en lumière un certain nombre d'aspects, le style, les couleurs, les tendances, et puis les acheteurs et tout le système de la mode, c'est-à-dire les stylistes, se calquaient sur ces grands magazines qui donnaient le là, finalement, de ce rythme.
Et c'était effectivement, il y avait une forme de légitimité ou en tout cas de droit d'entrée pour parler de la mode.
Bien sûr, il y avait les grandes rubricardes qui étaient là pour dire et porter leur regard. Certaines étaient très connues, vous en avez sans doute entendu parler. Suzy Menkes en France, qui a écrit longtemps pour le International Herald Tribune. Et puis vous avez reçu aussi Vanessa Friedman. Ce sont des personnes qui, à cette époque, étaient vraiment des papesse de la mode, qui donnait un regard, qui était suivi, écouté, reçu vraiment comme des déesses qui allaient porter un regard très spécifique sur cette mode.
Qui structurait donc à la fois la manière dont on parlait, la manière finalement dont l'industrie se structurait, même au sens de l'année. On a tous probablement vu Le Diable s'habille en Prada, qui met en scène Anna Wintour dans le fameux numéro de septembre, avec véritablement une structuration même de l'économie et de l'industrie autour de ces temps médiatiques. Et là, dans ce livre, Internet a aussi changé la mode. Vous décidez, en tout cas vous nous donnez une date qui est celle de 2013, qui vous semble être la date autour de laquelle tout bascule. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce qu'évidemment on sait que l'Internet existait avant. Pourquoi vous avez choisi cette date-là pour nous donner vraiment un changement de paradigme?
Alors, à ce moment-là, il y a un phénomène de maturité. Les blogs que vous connaissez sans doute, hein, ces sites qui sont publiés plus facilement avec des systèmes d'information, sont très répandus.
Blogueuses féministes,
voilà,
sont déjà arrivées.
Tout d'un coup arrivent les blogueuses qui portent un regard sur la mode, qui sont très libres, qui se lancent d'elles-mêmes, qui n'ont pas besoin finalement du filtre médiatique traditionnel et qui vont petit à petit apporter leur pierre à l'édifice en étant très indépendantes. Elles sont autonomes, elles vont à leur rythme, elles choisissent les pièces qu'elles ont envie de commenter, les accessoires qu'elles ont envie de commenter, et petit à petit, elles gagnent une audience. La deuxième étape, au tournant de 2013 et vers 2015, c'est la maturité des usages autour des réseaux sociaux. Là, le jeu des commentaires, le jeu d'aimer ou de ne pas aimer, le jeu des hashtags, vous savez, ces signes qui marquent des marques, justement, ou des mots, sont très présents sur un certain nombre de réseaux et notamment une plateforme qui est la plateforme Facebook qui va ensuite acheter la marque Instagram qui est vraiment cette plateforme où l'image est centrale. À partir de là, 2015, c'est l'explosion. Chacun peut dire la mode.
Chacun peut dire la mode et puis surtout, vous le dites bien, la première partie de votre livre est consacrée au défilé. Le défilé de mode qui finalement est un objet qui à la fois est toujours célèbre, on va le voir, parce qu'évidemment, les acteurs traditionnels ont souffert, mais finalement reviennent et adoptent les nouveaux codes. Mais en fait, vous le dites, le défilé, c'était le moment où on montre ce qu'il y a de nouveau. Et puis, de plus en plus, on a commencé à mettre en scène les coulisses. Et finalement, le commentaire sur la mode, tout le monde a accès aux coulisses, tout le monde peut se mettre en scène, du moindre petit Instagrammeur, au modèle. Il y a, disons, une explosion des gens qui peuvent avoir un discours sur la mode. Donc, on ne sait plus vraiment où ça se joue, où se joue la valeur.
Bah, chacun peut être à la fois émetteur d'un message et destinataire. Hein. Alors, ce qui est assez intéressant dans le monde de la mode, c'est que le défilé est un moment très particulier, très intimiste, avec ses règles pour pouvoir y accéder. Autour du défilé et avant la semaine de la mode, eh bien, petit à petit, on a vu ces acteurs blogueurs ou voire street stylers se mettre en scène eux-mêmes et puis être très présents avant et après les défilés pour prendre à la sortie ou avant les défilés des images se mettant en scène avec les mannequins. Puis bien sûr, il y a cette image force du selfie où chacun retourne l'appareil vers soi et se montre avec son style, imitant ce qui se trouve sur les défilés ou au contraire, inspirant des tendances de la part des stylistes qui se disent qu'ils doivent s'inspirer de ce que font ces observateurs nouveaux.
Alors évidemment, c'est très intéressant, 2013-2015, c'est quand même des dates qui sont très proches, mais on a l'impression qu'il s'est beaucoup passé beaucoup de choses depuis lors. Finalement, cette explosion, cette ouverture, alors on a entendu deux messieurs qui sont quand même très des acteurs importants de ce monde de la mode, directeur de la Fashion Week et celui du Festival d'hier, qui nous disent que c'est une ouverture, que tout cela est très positif. Il y a aussi peut-être des aspects négatifs, ou en tout cas des acteurs qui y ont perdu. La presse, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui?
Alors, la presse,
cette fameuse presse magazine.
Ça a été difficile, hein. Les grands groupes de presse internationaux qui fondent toute leur notoriété sur la couverture de ce monde-là ont souffert. Ont souffert parce que il y a moins d'argent. Les annonceurs s'intéressent à ces plateformes qui leur proposent aussi des espaces où ils peuvent s'exprimer, où la consommation se fait. Hein. Pour nommer Instagram par exemple, vous avez la possibilité maintenant, quand un produit vous plaît, de suivre un petit signe qui vous envoie directement vers les sites de commerce. Alors bien sûr, tout le monde n'achète pas de la mode haute couture sur Instagram, mais n'empêche, les accessoires, la parfumerie, tout ça, bah, ça crée un volume de consommation. Et là, la presse a souffert. Elle n'avait pas forcément les codes de ses réseaux sociaux, elle n'avait pas cette puissance d'attraction des followers qui sont présents, qui réagissent, qui indiquent des tendances. Donc cette presse traditionnelle, on peut penser à Hearst ou à des grands groupes comme par exemple ceux qui possèdent la marque Vogue, ont mis un peu de temps à réagir. Hein. Il y a eu un délai et là, la réaction est en train d'arriver. On sent les groupes essayer de remettre à plat leur stratégie digitale, à essayer d'importer les codes à nouveau qu'ils ont repérés sur les réseaux sociaux, à la fois dans des sites qu'ils créent pour eux, dans des comptes institutionnels du média et aussi à l'intérieur même du magazine où certaines rubriques reprennent reprennent les codes et les langages qui sont en vogue, justement, hein, sur les réseaux sociaux. La présence des hashtags, la présence du mannequin qui prend la parole et qui explique comment au quotidien elle utilise son compte Instagram pour utiliser, pour vivre sa vie quotidienne. On voit hein, ces rubriques arriver dans la presse plutôt traditionnelle.
Alors, d'une certaine manière, il y a une réinstitutionnalisation, finalement, de ces fameux acteurs, mais on a l'impression que, du coup, les magazines de mode, vous le dites d'ailleurs, c'est plutôt devenu du B2B, c'est-à-dire du business to business, que les magazines de mode parlent plus tellement au grand public aujourd'hui, mais parlent à d'autres professionnels de la mode.
C'est tout à fait mon sentiment, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce bouquin, c'est de montrer que finalement la presse magazine traditionnelle s'adresse plutôt à des prescripteurs, des consommateurs, aux responsables des marques eux-mêmes, pour leur dire, pour garder ce contact et pour aussi peut-être donner des tendances, pour filtrer les tendances, donner des tendances.
Et vous avez l'impression que du coup, dans cette question de la valeur, alors on l'a dit, la presse, elle a perdu beaucoup d'argent, on en parlait aussi aujourd'hui, la photo et la photo de mode. On sait qu'aujourd'hui, certains photographes de mode, il y a très peu de photographes de mode en tout cas, qui continuent à vivre de contrats avec la presse, alors que ça a été pendant des années leur principale rentrée d'argent. Aujourd'hui, bah, de plus en plus, ils vont faire des photos pour des marques et la presse va acheter des photos déjà produites pour les marques. Qui gagne, qui perd et vous avez l'impression que la valeur, elle va aller où en conclusion?
Alors, je pense que la valeur, je pense que dans cette émission, on en parle beaucoup, la valeur, elle est captée par les plateformes hein, qui savent très bien récupérer le flux de connexion via les followers qui s'inscrivent en masse et qui sont présents et qui donnent des données sur leur consommation, le rythme de leur consommation, les marques qu'ils vont regarder. Donc, toutes ces données, elles remontent vers les plateformes qui ont tout intérêt à grossir et aussi à s'associer avec des marques qui vont permettre la consommation, c'est-à-dire des plateformes qui permettent d'aller vers des magasins en ligne où on peut directement consommer tout en un.
Et vous êtes un petit peu moins optimiste que nos deux interlocuteurs d'hier, parce que vous vous rappelez qu'effectivement, ces plateformes, eh ben, elles récupèrent quand même pas mal de sous. Sophie Friedman nous le disait tout à l'heure, la plupart de ces influenceurs ne sont pas si indépendants de ça, parce qu'ils sont aussi tributaires des associations qu'ils ont avec ces marques. Et enfin, un dernier mot, il y a quand même une vraie autocensure sur ces plateformes. Vous le dites, ça censure l'origine du monde. Il y a des images de mode qui ont été des images parfois très violentes, parfois très érotiques, qui peut-être ne pourraient plus advenir aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais été marquée par cet exemple de cette image qui, vous connaissez ce tableau, hein, l'origine du monde. On voit un sexe de femme pleine face et Facebook a censuré cette image. Donc, des images de mode qui peuvent être parfois assez dénudées, avec des modèles qui exposent des robes un peu compliquées, eh bien, ces images-là peuvent aussi être censurées en amont même du choix que pourrait faire une marque pour essayer d'incarner une tendance de saison. Donc oui, les plateformes ont aussi leur mot à dire. Elles censurent en amont. Alors, le mot censure est peut-être un peu compliqué, mais je dirais peut-être une nouvelle pudibonderie numérique peut surgir.
Merci beaucoup Valérie Jeanne Perrier, vous êtes l'auteur donc d'Internet a aussi changé la mode, c'est paru aux éditions Kawa et en 2016 et ça fait un très beau panorama de ces questions. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Le temps de vous signaler un livre, vous avez vu Zoé Sfès, ce livre ça fait
un lien direct, c'est-à-dire qu'à la fois on va pouvoir passer numérique, de la mode au numérique. Le diable s'habille en GAFA, voilà. C'est Jacques Séguéla et il y a des très belles flammes sur la couverture.
L'arrière-grand-père de la communication française frappe fort avec un titre à son image. Le publicitaire qui a dû cogiter longtemps pour trouver donc un tel titre, Le diable s'habille en GAFA, n'a semble-t-il pas trouvé d'éditeur ou à peine il publie chez Coup de gueule. Le livre n'en est pas moins inspiré, sinon halluciné, puisque Jacques Séguéla part en guerre contre les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et nous invite à entrer en résistance contre, je cite, ce totalitarisme de la tech attitude. Quelques bonnes formules dans un livre décousu, signé par un fils de pub, mi-plaisanteur, mi-lanceur d'alerte, Coup de gueule donc d'un publicitaire âgé et grugé dont les GAFA ont fait les poches. Jacques Séguéla, Le diable s'habille en GAFA. Le livre vient de paraître.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h14 avec un petit peu de retard, le club de la presse numérique. On parle ce soir de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, la nouvelle guerre économique mondiale. Et nous sommes pour en débattre avec Gilles Fontaine, journaliste à Challenge, et Elisa Brown, journaliste au Figaro. Alors il y a deux semaines, le président des États-Unis, Donald Trump, annonçait une nouvelle salve de taxes douanières visant des produits importés de Chine. Ces 200 milliards de taxes ont amené une réponse immédiate des autorités chinoises qui ont annoncé de nouveaux tarifs douaniers à hauteur de 60 milliards de dollars sur les importations américaines. Parmi les produits taxés, on trouve de nombreux composants qui permettent de faire tourner l'industrie tech américaine, hein, comme le souligne un article paru dans le New York Times cette semaine. Et au-delà des taxes sur les importations, c'est une véritable guerre technologique qui a été déclarée entre les États-Unis et la Chine. Elisa Brown, pour commencer, vous avez publié cette semaine dans le Figaro un article détaillé sur cette tech war, cette guerre technologique, comme vous l'appelez. Quels en sont les enjeux ?
Alors les enjeux, ils sont, comme vous l'avez mentionné, a priori d'abord économiques. C'est vrai que les deux puissances luttent pour l'hégémonie dans ce domaine. Mais en fait, derrière, il y a tout un contexte géopolitique donc autour de la volonté de s'imposer en fait sur ce domaine-là.
Comment est-ce qu'on pourrait définir cette guerre, Gilles Fontaine, sachant que c'est une guerre qui oppose des grosses entreprises, d'abord pour commencer?
Alors, on voit deux géants capitalisme. Alors, c'est pas le même capitalisme, un capitalisme qu'on dirait que, enfin, avec une dictature éclairée derrière,
autoritaire
du côté de la Chine, et un vrai pragmatisme du côté effectivement des autorités chinoises qui, depuis Deng Xiaoping et 1986, ont clairement donné des grandes directions pour que une industrie chinoise technologique se crée, non seulement dans l'informatique et l'internet, mais aussi dans...
Et comment ces géants se sont créés, justement? Alors, ces géants qui s'appellent Baidu, Alibaba, qui s'appellent Tencent, qui s'appellent Renren, Weibo...
Alors, vous avez bien appris la liste des alternatives.
Ce sont d'ailleurs des alternatives,
des clones.
À Google, c'est souvent
Facebook,
des copycats, comme
ça.
On dit.
C'est exactement ça, parce que quand on parle de pragmatisme, les Chinois ont appris en regardant, en observant, en laissant rentrer, parce que Google est rentré en Chine dès 2000 et a commencé. Les Chinois ont regardé comment fonctionnait leur moteur de recherche et ont finalement commencé à développer leurs propres
qui
algorithmes.
Qui s'appelle Baidu, le leur, qui
exactement.
Est l'équivalent. Et puis ils ont interdit Google. Voilà.
Et puis ils ont interdit Google. Et puis ils ont créé Tencent, et puis Facebook ne rentre plus, ou essaye de rentrer puisqu'ils viennent de créer une filiale à Hangzhou, là, cet été.
On leur souhaite... L'équivalent de Facebook, c'est Renren, ou c'est aussi WeChat dans la partie plutôt Messenger. L'équivalent de Twitter, c'est Weibo. Bref, ils ont fait des copies de ces sites.
Ce sont des copycats. Et quand on voit que Google, aujourd'hui, qui en principe ne peut pas trop fonctionner en Chine, enfin, ils ont une part de marché ridicule de 1%. Alors que en France ou aux États-Unis, elle oscille entre 80 et 95%.
Elisa Brown, sur ces copycats, sur cette industrie, comment ils sont construits, les Chinois?
C'est vrai qu'on a donc toutes ces entreprises comme Baidu, Alibaba, qui en fait.
Il y a une sorte de... au fond, c'est du semi-étatique. On est sur des entreprises, mais en même temps, ces entreprises sont... elles développent aussi des outils qui sont parfois en concurrence entre elles. Donc c'est un capitalisme quand même.
Et c'est vrai que c'est très difficile en Chine de distinguer ce qui relève du privé et du public. Derrière les grands fonds d'investissement, on retrouve toujours un petit peu l'État chinois.
Vous parleriez de semi-étatique, vous, par exemple? Quelque chose comme ça?
Oui, l'expression ne me paraît pas usurpée.
Avec des régulations qui leur sont très favorables.
Moi, j'irais encore plus loin. C'est l'État chinois a quand même été derrière la création de chacune de ces entreprises, que ce soit du côté du côté internet, du côté donc les fameux Baidu, les grands portails, etc., mais aussi du côté du matériel informatique, hein, puisque des entreprises comme Lenovo dans le dans la fabrication d'ordinateurs ou Huawei dans les télécommunications ont été purement et simplement créés par l'État chinois.
C'est une bataille à la fois de soft, c'est-à-dire de logiciels, etc., mais aussi de hard, avec du matériel derrière.
Voilà, donc des deux côtés, de toute façon, à partir du moment où la Chine avait décidé de s'imposer dans ce domaine-là, tout a été mis en œuvre, toute la chaîne a été mise en œuvre pour que les choses réussissent. Il y a une marque que vous n'avez pas citée, parce que c'est pas vraiment une marque, c'est la plus grande usine du monde, hein, quand même, c'est Foxconn, qui fabrique non seulement l'iPhone, mais tout un tas d'autres produits.
Qui est installé notamment hors de Chine, pour une part, mais...
Absolument, donc Foxconn a ses usines en Chine, et a également plusieurs usines à l'étranger, notamment en Europe, et travaille pour des groupes comme Apple, mais aussi comme Dell, donc le fameux fabricant d'informatique, que Dell a décidé de se débarrasser d'une partie de sa production, parce qu'il n'était plus très compétitif dans ce domaine-là, et la fabrication, mais aussi, d'une certaine manière, le savoir-faire part dans ces groupes chinois.
Alors, Lisa Brandt, dans votre article du Figaro, vous évoquez cette guerre technologique, cette tech war. Comment est-ce qu'elle prend forme? Quels sont comment se joue la bataille? Et peut-être où elle va?
Alors cette bataille, il faut déjà peut-être remonter à ses origines en 2016. Donc la Chine vit ce qu'on pourrait qualifier d'un véritable moment Spoutnik. Elle se rend compte des avancées de la technologie américaine, notamment en matière d'intelligence artificielle, puisque on a donc la victoire d'AlphaGo contre le joueur coréen Lee Sedol au niveau du jeu de Go. Et là, vraiment, ça prend une ampleur particulière, puisque ce jeu a une résonance culturelle très très importante en Chine. Et à partir de là, ça va accélérer les investissements sur le plan technologique, comme vous le mentionniez tout à l'heure. La Chine a veut depuis longtemps s'imposer dans le domaine technologique, mais c'est vraiment à partir de 2016 qu'on observe une accélération, notamment de moyens. Là, on parle actuellement d'entre 25 et 60 milliards de dollars investis par an. Alors, c'est toujours très difficile de tracer ces déclarations, de voir si elles sont
vraiment
suivies.
Comment vous avez fait d'ailleurs pour trouver ces chiffres? On se base sur quoi?
Alors, on se base sur les rapports du Pentagone américain, qui sont extrêmement bien renseignés et qui suivent depuis de nombreuses années les investissements qui flèchent vers la Silicon Valley, mais aussi les déclarations des différents dirigeants.
C'est aussi, sur ce sujet, Gilles Fontaine, c'est aussi une bataille d'espionnage.
Mais oui, et là, je citais tout à l'heure Deng Xiaoping en 86. Il était premier secrétaire du Parti communiste chinois et il a clairement donné la direction.
Enrichissez-vous.
Oui, enrichissez-vous. Exactement.
Ça, c'était la première étape.
Exactement, la première étape. Et puis les moyens, en créant un programme. Ce programme, il s'appelle 863. Ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que c'est l'année 86 et 3, c'était le mois de mars. C'est à ce moment-là que Deng Xiaoping a lancé ce fameux programme en confiant cette mission à des chercheurs donc dans différents domaines, et notamment dans le domaine informatique, de se doter des moyens pour devenir un géant planétaire et réussir à tenir tête, notamment aux États-Unis. Et donc, il y avait des moyens tout à fait légaux et honorables, attirer les investissements étrangers dans ce domaine-là au pays. Et puis, c'est vrai qu'ils ont plutôt mieux que réussi, et puis des moyens un peu moins légaux quand on voit comment Cisco a dû se bagarrer. Donc Cisco, c'est un fabricant américain d'outils de télécommunications spécialisés dans Internet, justement. Cisco s'est fait piller sa propriété intellectuelle, littéralement. Il y a des tas de procès qui ont été engagés, et de là est né le géant Huawei qu'on citait tout à l'heure.
Un mot, Elisa Brandt, sur l'intelligence artificielle, dont vous voyez qu'elle est au cœur même d'un certain nombre de ces enjeux, de cette bataille mondiale technologique entre la Chine et les États-Unis.
Eh bien, c'est sûr que c'est dans ce domaine-là que se concentre le plus fort des investissements. On a aussi la voiture autonome, toutes ces technologies-là. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est particulièrement crucial. Ben, en Chine, notamment, sur tout ce qui relève de la surveillance, on voit beaucoup toutes les licornes chinoises se développer, notamment autour de la reconnaissance faciale. Pour la Chine, c'est aussi un moyen de renouer avec la puissance de jadis. Ça permet plus de contrôle, ça permet également d'anticiper l'avenir. Et dans une économie dirigiste qui aime à anticiper les grands plans, on a Made in China 2025, C'est vrai que c'est quand même un avantage de maîtriser cette technologie-là.
Capitalisme dirigiste, on pourrait dire, sur la Chine, Gilles Fontaine. Comment est-ce que vous interprétez les intérêts des uns et des autres dans cette bataille commerciale? Qui peut gagner, qui peut perdre, Gilles Fontaine? Est-ce que Trump, c'est du parti de poker? Est-ce qu'il sait où il va? Est-ce que les Chinois savent comment réagir à ça? Ou est-ce que tout ça, c'est un peu inutile et que ça ne changera pas grand-chose?
Alors, avec Trump, on ne sait jamais trop où on va, mais bon, il y a de vrais intérêts, il y a de part et d'autre de vrais intérêts commerciaux. Le problème de l'industrie américaine informatique, notamment, c'est que l'essentiel de leurs composants viennent de ces fameuses usines chinoises. Donc, c'est pour ça que Apple a vite fait d'aller convaincre l'administration américaine que les iPhones n'étaient pas forcément concernés par ces mesures de rétorsion américaines. Sur le volet Internet, là, c'est beaucoup plus simple, puisque l'Internet chinois est fermé. D'ailleurs, ils ont fait une expérience il y a deux ans, en 2016. Ils ont fermé l'Internet pendant...
Et ça s'est très bien passé. Ils continuent en vase clos entre eux.
Il n'y avait aucun problème, ce qui prouve que voilà, le pays est totalement...
Il y a un peu des problèmes pour les entreprises internationales en Chine. Il y a des problèmes pour les Chinois hors de Chine. Ce n'est pas si simple que ça, malgré tout. Mais...
Voilà.
Zoé Svez.
Mais justement, la théorie d'un penseur, disons, assez marxiste de l'Internet, qui est Evgeny Morozov, consistait à dire, finalement, la Chine, avec des arguments autoritaristes, a quand même réussi à maintenir son marché et notamment à préserver ses données. Est-ce qu'on arrive à évaluer à quel point, dans cette bataille de la donnée, qui est au cœur de la bataille à venir sur l'intelligence artificielle, les Chinois sont vraiment plus forts
quelle
que n'importe
d'avance,
qui d'autre
ouais. Donc,
quelle longueur d'avance.
Dans l'exploitation de la donnée.
Dans la donnée qu'ils ont su, la souveraineté, cette fameuse question de la souveraineté de la donnée, c'est-à-dire qu'elle reste en Chine et qu'elle est peu disponible pour d'autres gens.
À partir du moment où, de toute façon, c'est un Internet qui est fermé, avec des acteurs chinois à 99,37%, je peux dire à peu près.
Non, vous avez compté, 0,37 est très important.
Il n'y a pas trop de soucis, donc ils ferment, effectivement, ils ferment leur marché.
Ce qui est quand même très contradictoire avec l'idée même d'Internet, mais bon.
Oui, mais en même
temps...
C'est
un avantage considérable par rapport à des Européens, par exemple.
Et puis, on peut dire que d'un point de vue usage, ils sont très, très en avance sur nous.
Donc, comme ils ont copié les Américains, ils sont presque aussi rapides.
Oui, mais il y a des technologies de paiement mobile, etc., qui sont extrêmement populaires en Chine. Ici, on est limité avec notre carte bleue à 20 ou 30 euros quand on veut faire le paiement sans contact. Là-bas, le paiement sans contact, c'est la reconnaissance faciale. Donc, effectivement, toutes ces données sont emmagasinées, exploitées et très bien utilisées. Mais c'est vrai que dans les usages, les chiffres du e-commerce sont absolument phénoménaux par rapport à ce qu'on voit, nous, ici, en Europe ou aux États-Unis.
Pour terminer, Elisa Brown, vous êtes journaliste au Figaro. Alors, nous, on a les grands méchants. Ça s'appelle les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon. Et alors, eux, ils ont les 8 guerriers gardiens.
Oui, alors c'est vrai que je vous ai parlé de la façon dont les États-Unis observaient de près l'espionnage chinois sur leur propre territoire. Du côté de la Chine, on a aussi un magazine du Parti communiste chinois, donc, qui observe ces 8 guerriers gardiens que sont les entreprises comme...
Ce sont qui ?
Ce sont Apple, Intel, Cisco, qui selon ce magazine, ou IBM encore, qui ont pénétré trop profondément, je cite, sur le territoire chinois et qui sont désormais interdits.
Il faut s'en méfier.
Et donc il faut s'en méfier parfaitement. La Chine n'est pas tendre d'ailleurs avec les entreprises américaines. Elle rend d'ailleurs bien à Donald Trump la monnaie de sa pièce, puisque beaucoup d'entreprises américaines sont également bannies.
Voilà. Et puis en Chine, on parle des BAT aussi. C'est pas les GAFA, mais c'est les Baidu, Alibaba, Tencent. Et on parle même maintenant...
De Xiaomi.
Donc ça devient les BATS, c'est ça ?
BATS.
BATS, c'est compliqué. C'est un peu, c'est presque du chinois, on pourrait dire, en d'autres façons. Merci infiniment à vous deux. Merci à Elisa Brown, journaliste au Figaro. Merci Gilles Fontaine, journaliste à Challenge. On en reste là pour ce soir. Pour aller plus loin sur les GAFA chinois, les BATS et les 8 guerriers gardiens, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé SoftPower et vous abonner au podcast de SoftPower sur notre site France Culture ainsi que sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone SoftPower.